RCF.
Et nous nous arrêtons sur la vie de Maryse Koptsov, sainte orthodoxe juste parmi les nations. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Laurence Varro. Bonjour.
Bonjour Madame Nathel.
Un ouvrage publié aux éditions Nouvelle Cité. Vous proposez de prier avec Maryse Koptsov. Maryse Koptsov, c'est une femme de l'intelligentsia russe qui a vécu une partie de sa vie, une toute première partie de sa vie, à Saint-Pétersbourg notamment, mais aussi au bord de la mer Noire. Elle est dans un milieu intellectuel vivifiant. Et puis, elle va quitter la Russie au moment de la révolution de 1917. Elle arrive en France. Elle s'engage dans une action auprès des Russes au départ, des Russes émigrés. Et puis, au fil du temps, cette action qu'elle mène avec les orthodoxes va la conduire à ouvrir une maison. Ce sera la maison rue de Lourmel, une grande maison dans laquelle elle accueille les premiers Russes juifs qui quittent l'Allemagne et qui quittent la Russie.
Et même des Français juifs.
Qui quittent les lieux où ils sont menacés. Maryse Koptsov, entre-temps, s'est séparée de ses maris, est entrée et devenue moniale. Elle est moniale orthodoxe et elle va ouvrir donc cette maison et accueillir ses premiers juifs. Quelle est l'action qu'elle va mener justement pour les aider et les protéger, Laurence Varro?
À partir du moment où commence la persécution des juifs, il faut voir que la persécution, de décret en décret, elle commence par être une persécution professionnelle, c'est-à-dire qu'on va les mettre à l'écart de certaines professions. Et donc là, il y a des besoins matériels, déjà. Donc, c'est la guerre. Et comme elle est très organisatrice, elle a un côté Sainte Thérèse d'Avila aussi. Hein. C'est sûrement une mystique, mais c'est aussi une femme qui a un esprit concret. Elle a obtenu que la rue de Lourmel soit qualifiée de centre distributeur par la mairie du 15e arrondissement.
On est en 1940 et ça a son importance parce que le fait que ce site soit reconnu comme centre distributeur, ça veut dire que...
Elle peut nourrir des gens.
Voilà. Elle recevra de la nourriture de la municipalité.
Elle va recevoir de la nourriture qu'elle va améliorer, mais c'est un lieu d'accueil très efficace. Et puis à partir du moment où d'autres décrets sont publiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors il y a un nouveau recteur de la paroisse, c'est le père Dimitri Klépinine, qui est un homme marié qui a accédé au sacerdoce, comme c'est possible pour les orthodoxes, et qui a un premier enfant, puis ensuite un deuxième. Et elle s'entend très très bien avec le père Klépinine et sa famille, et ils vont faire ce qu'ont fait aussi beaucoup de catholiques. Ils vont d'abord baptiser des juifs qui veulent devenir chrétiens, et qui auront donc un certificat de baptême, mais ils vont aussi fournir de faux certificats de baptême à des gens qui, en fait, n'ont pas été baptisés. Ils vont d'ailleurs les coder pour eux, très discrètement. Eux sauront que le certificat est un certificat qui a été donné par charité.
Oui, il y aura des vrais baptêmes et des faux certificats de baptême. Ouais. Elle est très concernée par la question juive, et elle a cette phrase que je trouve vraiment saisissante, d'une certaine manière, que vous citez dans votre livre. Il n'y a pas de question juive, il y a la question chrétienne. Ne voyez-vous pas que c'est contre le christianisme que la lutte est engagée? Si nous étions de vrais chrétiens, nous aurions tous porté l'étoile jaune. Les temps de confesser la foi sont arrivés. C'est saisissant, cette phrase.
Cette phrase, elle est saisissante. Elle la rapproche d'ailleurs de... C'est une phrase qui rapproche de ce qu'aurait pu dire Simone Veil, d'ailleurs. Hein. La philosophe aurait très bien pu écrire quelque chose comme ça. D'ailleurs, peut-être l'a-t-elle fait. Pour les chrétiens, les juifs sont des anciens testaments. Il n'y a pas de rupture. Il y a un accomplissement par le Christ. Donc, être antisémite pour un chrétien est une absurdité. Mais elle va aller jusqu'au bout, puisqu'elle va aller jusqu'à l'héroïsme et au martyre.
Maryse Koptsov, elle est alerte, elle a lu Mein Kampf plus jeune, elle connaît cet ouvrage et elle a pratiquement une forme de pressentiment. Est-ce que on peut retrouver dans l'accueil des premiers juifs là aussi, on pourrait presque dire une première action, comme si le temps de l'engagement n'attendait pas, en quelque sorte.
Oui,
une
mais
urgence.
En fait, il y a, à ce moment-là, il y a tout un mouvement de résistance chrétienne au nazisme qui s'est mis en place, que ça soit en Allemagne, on connaît la Rose Blanche, que ça soit en France, des gens qui ne se connaissent pas d'ailleurs, forcément. Certains appartiennent à des mouvements de résistance formels comme le père Dimitri Klépinine. Marie Skopsov, devenue Sainte-Marie de Paris, n'appartient pas à proprement parler à un mouvement de résistance formel. Elle les connaît, elle les côtoie, elle fait parfois des actions pour eux, mais en fait, elle était trop imprudente pour être appartenir strictement à un mouvement de résistance militaire uniquement. D'abord, elle est témoniale, et puis elle était capable de dire au téléphone « je cache des juifs ». Donc, elle a été extrêmement efficace avec des mouvements de résistance sans y être totalement intégrée.
Elle était aussi assez indépendante. Alors justement, c'est ce qui pose peut-être question quand elle prononce ses trois vœux, obéissance, chasteté, pauvreté. Comment est-ce que ces trois vœux ont pris vie en quelque sorte pour elle dans sa vie au quotidien? Obéissance, on la sait très indépendante, mais on sait aussi à qui elle obéit en quelque sorte. Chasteté, pauvreté, comment est-ce qu'elle va vivre ces trois vœux?
Ouais, écoutez, elle vit totalement les vœux du monachisme. Alors l'obéissance, je pense que de temps en temps, on était dans une négociation de bon aloi avec son père spirituel et avec l'archevêque. D'abord, elle est passée par-dessus le noviciat, parce qu'à cause de son expérience de vie, des circonstances particulières, de son âge, elle avait fait une sorte de mini-école d'application dans des monastères baltes après sa consécration. Et elle est revenue, mais après, elle était guidée et guidée par son père spirituel et par l'évêque. Mais effectivement, on pourrait dire que l'obéissance n'était pas sa matière forte.
Mais là, vous parlez d'une obéissance à un ordre, en quelque sorte. Est-ce qu'elle obéira à la parole de Dieu, si on peut dire ça comme ça? C'est une parole qu'elle fréquente tous les jours.
C'est peu dire qu'elle a obéi, puisqu'elle est devenue une athlète du Christ. C'est devenue très vite un exemple. Alors, elle a été mariée deux fois. Après, elle mène une vie stricte de célibataire avec une organisation qu'elle a inventée qui fait que son monastère est aussi un foyer. Mmh. Il y a une tradition d'hospitalité monastique, bien sûr, mais là, on est au-delà. Il y a beaucoup de gens qui circulent. Et quant à la pauvreté, ça fait longtemps qu'elle s'était dépouillée de tout, soit par des circonstances historiques, parce que les émigrés russes, à de rares exceptions près, étaient pauvres, soit pas simplement parce que c'est le choix qu'elle avait fait.
Marie Skopsov a écrit sur la croix. C'est quelque chose qui va véritablement la préoccuper. C'est dans sa réflexion, mais c'est aussi dans sa propre vie. Vous citez un texte sur ce feu du christianisme et sur cette question de la croix. Je vous propose qu'on écoute ce texte.
Le christianisme doit embraser le monde du feu de l'amour du Christ. Il doit aller jusqu'à souffrir la croix pour lui. Il doit incarner en lui le Christ. Qu'importe si cette croix éternellement dressée va être pour de nouveaux Grecs une folie. Pour de nouveaux Juifs, un scandale. Pour nous, elle sera force divine, sagesse de Dieu. Qu'importe si nous sommes appelés à la pauvreté spirituelle, à la folie en Christ, aux persécutions, aux sévices, car nous savons que c'est la seule vocation que nous ait donnée celui qui a été persécuté, battu, le Christ qui s'est fait pauvre, le Christ qui s'est fait petit.
Laurence Varro, comment ce texte résonne pour vous, vous qui vous êtes penchée, passionnée pour la vie de Marie Skopsov, devenue sainte? Ce sens qu'elle a de la croix, pour vous, il est prégnant dans sa vie?
Il est fondamental, il ramène à la question de saint Paul, où est-il le sage, où est-il l'homme cultivé, où est-il le raisonneur d'ici-bas? Et effectivement, elle rappelle les questions fondamentales, que l'homme n'est pas seul, qu'on est relié les uns aux autres par la communion, qu'on doit partager le destin de ceux avec lesquels on communie, que partager le destin de ses frères, c'est le contraire de la relation factice, qu'on ne se donne qu'entièrement, que c'est une ascèse, qu'on ne se ménage pas, et de même qu'on ne fait pas la guerre par procuration, comme le rappelait il y a quelques jours, le général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées, on ne fait pas la guerre par procuration, on n'aime pas par procuration, on n'est pas chrétien par procuration. Et on, il n'y a pas de demi-mesure, si vous voulez. Donc de ce point de vue, elle rejoint aussi, encore une fois, la tradition très ancienne des Pères du Désert, qui est une tradition qui est commune aux catholiques, aux orthodoxes, aux protestants, avec des notions très importantes comme le renoncement au bien, le retirement du monde, l'humilité, la kénose. Il y a une kénose du Christ, mais il y a aussi une kénose démoniale.
Redites-nous ce qu'est la kénose.
C'est l'abaissement. L'humilité, l'abaissement. Si vous voulez, le Christ, par sa kénose, par son abaissement sur la croix, et aussi le Christ, dans sa kénose initiale, de son abaissement par son incarnation, comme simple, un simple enfant, donne l'exemple à la moniale d'une kénose de moniale, une kénose de moine, qui est fondée sur l'humilité, le dépouillement et l'ascèse.
Vous diriez que c'est ce qui a guidé. Elle a beaucoup lu Saint-Paul, Marie Skoptsov. Est-ce qu'on sait si elle avait un évangile ou, des lettres préférées ?
Ah, ça, je ne sais pas quelles étaient ses préférences. Je pense qu'elle a évidemment, elle avait la Bible et peut-être le Nouveau Testament aussi en grec et en latin, peut-être pas, mais peut-être en grec en tout cas. Mais elle avait les textes à portée de main en permanence et puis elle les entendait comme tous les chrétiens pendant les offices.
Merci beaucoup Laurence Varro, on vous retrouve demain. Merci à vous.